Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum qui va être dominé par l'hommage planétaire à Nelson Mandela.
Une cérémonie historique d'adieu au FNB Stadium de Soweto. Le monde unanime mardi dans son éloge au premier président noir sud-africain, héros de la lutte contre l'apartheid, décédé le 5 décembre à l'âge de 95 ans. Le président américain Barack Obama a salué un géant de l'histoire, retour sur la vie et l'œuvre de Madiba.
Washington Forum.
Le monde a perdu l'un de ses plus illustres leaders des temps modernes. Nelson Mandela n'est plus. Une infection pulmonaire le tourmentait durant les trois dernières années de sa vie, séquelle des 27 années en prison où il avait contracté la tuberculose. À la cérémonie d'hommage mardi à Johannesburg, le président Obama a comparé Mandela à Gandhi et Martin Luther King. Mais les États-Unis, comme certains autres pays, ont tardé à reconnaître la légitimité de sa lutte contre l'apartheid. Robert Daguillard.
Barack Obama et deux de ses prédécesseurs au grand stade de Soweto cette semaine. Pas de doute, les États-Unis voulaient faire acte de présence à la grande cérémonie d'hommage à Nelson Mandela.
Over 30 years ago, while still a student,
j'ai entendu parler de Nelson Mandela pour la première fois il y a 30 ans quand j'étais étudiant. Le combat dans son pays a éveillé quelque chose en moi, m'a donné conscience de mes responsabilités et m'a lancé sur le parcours qui me mène ici, aujourd'hui, devant vous.
Pourtant, l'élite politique US ne s'est pas toujours montrée aussi chaleureuse envers l'ancien président sud-africain de son vivant et pendant les années de lutte contre l'apartheid. Nicole Lee, présidente de l'ONG Transafrica.
Dans les années 80, Randall Robinson, notre fondateur, et bien d'autres encore, ont manifesté devant l'ambassade d'Afrique du Sud pour appeler le Congrès à adopter des sanctions économiques contre Pretoria.
Mais à Washington, le président Reagan s'opposait à toute sanction économique contre le régime d'apartheid, considéré un rempart contre le communisme en Afrique australe. Mandela était sur la liste de surveillance antiterroriste jusqu'en 2008. Et dans les années 80, même les associations US de défense des droits de l'homme hésitaient à se solidariser avec Mandela et le Congrès national africain.
Certains pensaient qu'il soutenait la violence et le soupçonnaient même de sympathie communiste.
Toutefois, le président Reagan ne réussit pas à empêcher l'adoption par le Congrès de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud en 1986. Joe Biden, aujourd'hui vice-président des États-Unis, siégeait alors au Sénat.
Après son élection à la présidence en 1994, il est venu me remercier de mon soutien aux sanctions du temps que je siégeais à la Commission des affaires étrangères du Sénat.
Alors le passé justifie-t-il la forte présence US à l'hommage international à Mandela? L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis dédramatise.
This is not the time to look at someone.
Ce n'est pas le moment de se demander pourquoi un tel ou un autre rend hommage maintenant à Mandela, car même dans la mort, cet homme a su changer le cœur des gens.
He is able to make people change their perspectives.
La preuve peut-être, à Soweto, Barack Obama a serré la main de Raúl Castro, le président cubain. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique, à Washington.
Merci Robert. Place maintenant à nos invités à Johannesburg, la sud-africaine Liesel Louw-Vedran, journaliste indépendante et auteure. Et avec moi sur ce plateau, professeur Marilyn Sefocle de l'université Howard à Washington. Les grands de ce monde ont donc pris part avec des milliers de Sud-Africains à une gigantesque cérémonie en hommage à Nelson Mandela. Vous avez vu les images mardi. Je le disais, le président Obama l'a comparé aux grands libérateurs du XXe siècle qui ont donné une voix aux sans-voix. Liesel Louw-Vedran, pour vous, qui était Mandela?
Bonsoir. Oui, pour moi, en fait, Mandela, c'est le grand leader. C'est l'homme qui a combattu contre l'apartheid. C'est un fin politique, un stratège, un homme de courage. Il a combattu l'apartheid, il a passé 27 ans en prison, il est sorti et il a négocié une transition paisible vers la démocratie pour l'Afrique du Sud. Et c'est ça, je pense, que son héritage. Mandela, qui a appris l'afrikaans pendant qu'il était en prison, qui a posé des gestes envers les Afrikaners, enfin les Blancs, qui étaient au pouvoir toujours à l'époque, et qu'il a pu gérer ces transitions. Moi, je me souviens très bien des années entre 90 et 94, comment c'était tendu. Il y avait de la violence, il y avait beaucoup d'angoisse. Si ce n'était pas pour Mandela, vraiment, qui a pu mener le pays vers une vraie démocratie où tout le monde avait le droit de vote. Vraiment, le pays pouvait se déchirer.
Vous l'avez dit, vraie démocratie. Barack oui. Obama a été chaleureusement applaudi par la foule mardi, mais les États-Unis eux-mêmes ont pendant longtemps considéré Nelson Mandela comme un terroriste. Professeur Sefok, ce fait restera-t-il une source d'embarras pour Washington?
Évidemment que c'est une source d'embarras pour Washington, parce que en fait, Mandela est resté sur la liste des terroristes jusqu'à 2008. Oui. Et on se demande pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps pour l'enlever de cette liste. Et en fait, cela s'explique aussi un petit peu par l'histoire elle-même des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique du Sud, puisque les États-Unis, enfin, sous les présidents Ford et aussi sous le président Reagan, s'opposaient aux sanctions contre l'Afrique du Sud. Or, ce n'était que par le biais des sanctions que l'on pouvait démanteler le régime vraiment féroce, atroce de l'apartheid.
Lisèle Louve-Vaudran, vous êtes issue d'une famille africanaire et vous avez accompagné le combat anti-apartheid pour une Afrique du Sud arc-en-ciel. La légitimité tardive de la communauté internationale par rapport à la lutte de Mandela, est-ce quelque chose qui vous révoltait?
Oui, c'est vrai que beaucoup de Sud-Africains étaient révoltés et frustrés, parce que c'est seulement vraiment dans les années 80 où le boycott économique, le boycott culturel, sportif a fonctionné, et ça a mis beaucoup de pression sur le régime d'apartheid à l'époque. Mais bon, il faut comprendre les enjeux économiques. Bon, l'Afrique du Sud à l'époque, il y avait énormément de propagande aussi anticommuniste. Maintenant, ça nous fait sourire d'imaginer qu'on a pu traiter Mandela comme un communiste, un ennemi de la liberté, un ennemi. Surtout, on utilisait beaucoup la religion à l'époque pour dire que l'ANC sont des athées. Moi, je me souviens très bien cette ambiance qui était créée en Afrique du Sud et dans le monde entier. Mais certes, tous les gens qui ont lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud et ailleurs étaient vraiment frustrés par le manque. Bon, maintenant, surtout par exemple l'ère Thatcher en Angleterre aussi, c'était difficile.
Alors il faut le dire, la cérémonie d'hommage a été un peu gâchée par la polémique autour de l'interprète en langue des signes, accusé d'être un imposteur. Mais mardi à Soweto, nous avons également vu cette longue poignée de main entre Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro. Professeur Sefok, même dans la mort, Mandela arrive-t-il à unir les dirigeants du monde?
Alors, tout à fait. Il s'agissait pour Barack Obama de tout d'abord d'être poli. Il y avait devant lui tout un parterre d'hommes politiques, de dirigeants, de chefs d'État. Et serrer la main à un chef d'État, c'est quelque chose de tout à fait normal, surtout lors d'un enterrement. Je trouve que cette polémique autour de la poignée de main a été un petit peu trop exagérée dans les médias américains, puisque devant la mort, évidemment, on doit se comporter avec une certaine sérénité, une certaine dignité, et c'est ce qu'a fait le président Barack Obama.
Lisèle le disait tout à l'heure, la proximité de Mandela avec les communistes avait nourri les soupçons d'une Amérique plongée dans la guerre froide. Mandela avait même érigé en modèle la prise de pouvoir par Fidel Castro et n'avait jamais caché avoir étudié les écrits de Staline. Tout cela a-t-il contribué à cet amour tardif de Washington pour Mandela?
Cela peut être contribuer à cet amour tardif, comme vous le précisez, pour Nelson Mandela. Mais toutefois, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, en fait, Cuba était le seul pays venant de l'extérieur de l'Afrique qui avait mis à la disposition de l'Afrique, si vous voulez, des troupes pour combattre l'apartheid en Angola. Et c'est à partir du moment où Cuba, en 75-76 et ensuite par la suite en 1988, a combattu l'apartheid, les troupes sud-africaines blanches sur le terrain en Angola, que justement le mouvement anti-apartheid a pris un nouveau souffle, parce qu'il y a eu la défaite des troupes sud-africaines en Angola. Et ça a donné un signal très fort au mouvement anti-apartheid, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup d'universités se sont ralliées à la cause et ont demandé à ce qu'il y ait un boycott des produits sud-africains dans le monde entier.
Voilà, nous marquons une petite pause. Washington Forum revient dans quelques instants.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable.
La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes.
La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat.
La VOA, toujours au cœur de l'actualité.
Toujours avec vous.
Restez informés.
Jacques Aristide avec vous, l'adieu planétaire à Nelson Mandela dans ce Washington Forum. Nos invités, professeur Marilyn Sefocle de Howard University et la journaliste sud-africaine Lisa Louvaudran, avant de les retrouver, quelques commentaires à Facebook. Célestin Fundayi, Congolais habitant au Cap en Afrique du Sud, les dirigeants africains doivent s'inspirer de cet homme. Dans mon pays, la RDC, tu es de l'opposition, tu es considéré comme ennemi du pouvoir. Barra Diagne de Dakar, Mandela a libéré socialement l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a le devoir de libérer son peuple en réduisant le fossé trop large entre riches et pauvres. Victor Mani de Kakwako, Angola, le peuple angolais est également en deuil. Oumar Diallo de Dingiraye en Guinée, l'Afrique a perdu, le monde entier a perdu l'un des piliers de la démocratie. Voilà, retrouvons nos invités et je vous propose d'écouter cette question de Sabine Kaup.
Merci Jacques. Oui, c'est une question pour Lisa Louvaudran. L'Afrique du Sud demeure confrontée à de graves problèmes d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires. Comment se présente l'après Mandela dans votre pays, Lisel Louvaudran?
Lisel?
Oui. Non, c'est absolument vrai. Il y a 25% de chômage, encore beaucoup plus parmi les jeunes. L'Afrique du Sud est un des pays avec le plus grand écart entre riches et pauvres aujourd'hui. Donc, nous faisons face à une situation vraiment de graves problèmes de pauvreté et un problème aussi où le gouvernement n'a pas jusqu'ici su vraiment assurer que même les nécessités de base, le logement, sanitation, l'éducation, il y a énormément de problèmes et le gouvernement est assez critiqué en ce moment. Les gens, ils ont vu comment Jacob Zuma a été hué lors de cette cérémonie mardi pour Nelson Mandela. Donc, on a des élections en 2014. Ça serait intéressant pour tout le monde de voir si l'ANC a encore une large majorité parce que il faut absolument mettre en place des nouvelles structures. Bon, c'est une tâche énorme. Ça fait 20 ans seulement. Bon, c'est 20 ans, mais c'est pas longtemps de réparer des problèmes. L'apartheid était tellement un système ancré dans le pays, même géographiquement, on peut dire. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de transport public ici, chez nous, à Johannesburg. Donc, beaucoup d'efforts sont faits pour des systèmes de bus, etc. Bon, c'est l'héritage d'apartheid qu'on est toujours en train de combattre, mais pas suffisamment vite. Il y a des problèmes, par exemple, la redistribution des terres. il y a encore la majorité des terres, des fermes en Afrique du Sud, c'est dans la main des grands fermiers blancs. On n'a pas mis suffisamment d'énergie dans cette question, qui est une question surtout en Afrique australe. On a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. C'est quelque chose d'essentiel qui a une... que les peuples qui vivaient dans certains endroits, dans les milieux ruraux, qui ont vu leurs terres confisquées, qui doivent retourner à leurs terres, mais de faire ça d'une façon pacifique. Donc ça, ce sont tous des défis qui font face à l'Afrique du Sud. On a besoin d'une croissance plus importante que ce qu'on avait cette année, moins de 3%. L'économie sud-africaine est en train aussi aujourd'hui. Cette année, on a vécu énormément de grèves dans les mines, dans des secteurs de l'industrie, qui fait qu'il n'y avait pas assez de croissance pour nous permettre de mettre en place tous ces changements de, comment
dire, service delivery. Est-ce que vous voyez le président Zuma? Vous l'avez dit tout à l'heure, il a été hué mardi. L'ANC est accusé d'avoir instrumentalisé les funérailles de Mandela. Mais sans Mandela, quel avenir pour le parti au pouvoir, l'ANC de Zuma? Est-ce que lui-même, le président, il va pouvoir relever tous ces défis que vous venez de mentionner?
Oui, je pense que l'ANC est toujours un pays très, très populaire. Aujourd'hui, j'étais à Pretoria, là où aujourd'hui les gens rendent hommage de nouveau à Nelson Mandela au Union Buildings. Beaucoup de gens étaient habillés dans les couleurs de l'ANC. C'est quand même le parti de libérateur de l'Afrique du Sud. C'est une des plus vieilles parties politiques d'opposition en Afrique, créée au milieu du 20e, au début du siècle dernier. Donc, l'ANC en tant que parti restera toujours très populaire. Chose, c'est que le président Jacob Zuma, vraiment, c'était pas un leader, c'est pas quelqu'un qui inspire beaucoup de confiance. Il y a énormément de scandales de corruption autour de lui, surtout ces derniers temps, ces dernières semaines. À la une de tous les journaux, il y a un gros scandale autour de sa propre maison où on a dépensé 200 millions de rand. Ils ont 20 000 dollars presque pour construire sa propre maison personnelle. Et ça a révolté des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc Zuma, c'est Zuma en tant qu'individu,
battre,
j'allais dire.
Effectivement, un gros travail à battre. Mais parlons de Mandela et au-delà de votre pays. Barack Obama n'a pas manqué de critiquer les dirigeants qui honorent d'un côté Mandela, l'homme de paix, mais oppriment leur peuple de l'autre. Sur notre page Facebook, beaucoup de critiques contre ces politiciens africains qui s'agrippent au pouvoir jusqu'au bout. Professeur, est-il temps pour ces présidents à vie d'emboîter le pas à Mandela?
Alors, Mandela a donné un exemple mais extraordinaire parce qu'il s'est retiré de la politique, il s'est retiré de la présidence en 1999 parce qu'il savait que sa tâche venait de s'accomplir et qu'il fallait laisser la place à une autre génération, à une génération de personnes qui pouvaient mener l'Afrique du Sud vers une autre direction, vers une direction qui serait le pas supplémentaire, si vous voulez, le pas d'après le post-apartheid, c'est-à-dire une génération de politiciens qui feraient les réformes économiques nécessaires. Lui, il a fait le travail social. Et ce travail social, ça a été un labeur, mais extraordinaire, que Mandela, c'est un véritable cadeau qu'il a offert, non seulement à l'Afrique, mais au monde entier. Parce que c'est le pays qui, en lui-même, renfermait le plus de disparités, le plus de férocité de la part de la minorité blanche à l'égard d'une majorité noire. Et Mandela est arrivé à apaiser tout cela.
Oui, donc ça, mais quand vous regardez grandeur, l'Afrique ailleurs, est-ce que vraiment l'Afrique en profite?
Les nouveaux dirigeants d'Afrique devraient s'inspirer du modèle de Mandela. Donc il s'agit non seulement d'honorer un grand homme, mais il s'agit aussi de s'inspirer de son modèle. Il s'agit également de montrer que l'on peut éliminer ou tout au moins atténuer énormément les disparités économiques entre les différents groupes sociaux, non seulement en Afrique du Sud, mais dans toute l'Afrique.
Alors, depuis son retrait de la vie politique, Nelson Mandela s'était engagé dans la lutte contre le VIH-Sida, qui a emporté son fils Mangato en 2005, et tue annuellement plus de 200 000 Sud-Africains. Voilà un homme qui a libéré son peuple du joug de la minorité blanche, mais même après cette victoire monumentale, il aurait voulu libérer son pays d'autres maux comme le sida et la pauvreté. Professeur, était-ce un homme infatigable jusqu'au bout ?
Alors, Mandela, c'était un homme infatigable jusqu'au bout. Il travaillait d'ailleurs de très longues heures, se couchait extrêmement tard, se levait extrêmement tôt. Et ce qui était important pour lui, c'était surtout le bien-être de son peuple. Donc, il s'agit là maintenant non seulement de continuer la tâche qu'il a commencée, mais il s'agit aussi d'aller au-delà de cette tâche. Et la tâche, en ce moment, est énorme. Le travail de Mandela n'est pas simplement terminé. La tâche, les 400 ans d'oppression qu'ont vécu les Africains sur leur propre territoire, ont été 400 ans qui ne peuvent pas être défaits en une génération. Évidemment, on s'attend à ce que tout soit réglé le plus rapidement possible, mais il faut laisser du temps au temps, si vous voulez. Mais en même temps, les problèmes sont si cruciaux qu'il faut que les dirigeants, les nouveaux dirigeants d'Afrique du Sud, s'y attellent énormément.
Mm-hmm. Lisèle, cette même question à vous concernant les dirigeants africains qui s'agrippent au pouvoir. Vous couvrez l'Afrique, vous avez couvert l'Afrique de l'Ouest et ailleurs. Alors, qu'en est-il de cette Afrique? Comment ces dirigeants peuvent tirer profit de ce que Mandela a laissé?
Oui, exactement. Je pense que déjà, de ne pas rester au pouvoir 30 ans, de faire ces un mandat ou deux mandats, ce sera déjà un début. Mandela avait incarné tellement de valeurs, par exemple. C'était l'homme surtout qui était à l'écoute des gens. Je me souviens, et tous les journalistes qui l'ont interrogé disent la même chose. Tu lui poses une question, il pose une question au retour. Il était intéressé par vraiment les plus petits, toujours les enfants. C'est un homme très humain. Et c'était un homme très humain qui se souciait de l'avenir de son peuple, qui ne s'est pas enrichi lui-même, qui vraiment pour lui, c'était pas ça qui était important. Et puis, on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'homme de la réconciliation, qui savait quand il y a un déchirement, et on voit tant de pays où il y a aujourd'hui des problèmes ethniques, des guerres internes. Mandela, c'était celui qui rapprochait des gens, qui posait des gestes, qui allait vers l'autre, vers l'ennemi, pour faire la paix. Bon, en parlant de Mandela, on a tendance de parler dans les phrases toutes faites, mais vraiment, c'était la réalité, c'est que Mandela avait cette génie, cette intelligence, cette sagesse d'aller vers des gens dans le seul souci pour qu'il y ait la paix et la réconciliation.
Oui, voilà. Alors, on va le rappeler, premier président noir de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix, très aimé dans son pays et reconnu partout dans le monde, où plus de 85 rues, avenues et boulevards portent son nom, de même qu'une vingtaine de stades, places et parcs, et plus de 25 écoles, universités et instituts. En deux mots, professeur, quel héritage laisse-t-il à l'Afrique et au monde?
Alors, il laisse un héritage énorme à l'Afrique et au monde. Le monde aussi s'est impliqué dans sa lutte. C'est quelqu'un qui, non seulement de par sa personnalité, de par son combat, qui est arrivé aussi à entraîner énormément de personnes à sa cause. Par exemple, la toute première fois que des Américains vraiment se penchaient sur la question de l'apartheid, c'était en 1971, quand un groupe d'ouvriers de la compagnie Polaroid, des Noirs américains, se rendait vers le Congrès Ron Dellums, et lui disait: écoutez, nous avons photographié les laissés-passer des Sud-Africains noirs, il y a quelque chose là qui se passe qui n'est pas, qui est affreux, qui est quelque chose que le monde devrait condamner. Et à ce moment-là, la machine contre l'apartheid s'est mise en branle côté États-Unis, avec le Black Caucus, avec Ron Dellums, avec Randall Robinson à Transafrica, avec les universités qui se sont ralliées à la cause. Donc, il a laissé un legs, ce qui est universel, si vous voulez, et qui est comme une sorte de feuille de route pour tous les autres pays où il y a des tensions ethniques, à savoir comment régler ces tensions ethniques par la vérité, mais aussi par la réconciliation. Et la composante vérité, la composante réconciliation vont de pair. Il faut qu'il y ait vérité pour pouvoir apprendre et pour pouvoir ne pas oublier l'histoire, mais il faut qu'il y ait également réconciliation pour que le pays en ressort fortifié.
Merci. Voilà pour cette hommage à Nelson Mandela dans Washington Forum. Madiba, un éternel testament pour l'humanité. Je remercie mes invités, la journaliste sud-africaine Lisa Lou Vaudran et la professeure Marilyn Sefocle de l'Université Howard. Merci de votre fidélité, chers amis de la VOA. Jacques Aristide à Washington, je vous dis à très bientôt. Take care.
Nelson Mandela.